Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Adrien de Vivert, journaliste en Belgique, est devenu porte-parole d'un atypisme neurologique qu'il connaît bien, le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. Auteur du livre « On m'appelle la tornade », Adrien nous partage pendant cette conversation ses souvenirs d'enfance et de scolarité, alors même que le diagnostic de son TDAH n'était pas posé. Nous avons parlé des particularités des enfants porteurs de TDAH, de la gestion de la vie de famille et de la vie professionnelle, et surtout des capacités extraordinaires de ces enfants, créativité, empathie, imagination, etc. Adrien porte un message rempli de positivité et de joie sur ce trouble encore trop peu connu du plus grand nombre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Je suis aux anges d'échanger avec vous aujourd'hui pour parler de votre parcours et plus globalement du trouble neurodéveloppemental, du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité qu'on appelle TDAH et qui touche en France environ 6% des enfants scolarisés. Si je ne me trompe pas, c'est le chiffre que j'ai trouvé sur Internet. Pour vous présenter brièvement, vous êtes journaliste de formation, présentateur télé et animateur radio pour RTBF. Et vous avez également publié un livre que j'ai adoré qui s'appelle « On m'appelle Tornade » où vous partagez votre parcours de vie avec le TDAH. Et pour démarrer cette conversation, j'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi consiste le TDAH.
Alors le TDAH, c'est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. En fait, c'est un neuroatypisme, hein, c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour le moment, hein, en France et en Belgique aussi, qui est facilement comparable à un aéroport, mais un aéroport qui fonctionne pas tout à fait de manière efficace. C'est-à-dire que dans le cerveau d'un TDAH, il y a effectivement une tour de contrôle, il y a des pistes d'atterrissage et des pistes de décollage, sauf qu'il y a personne dans la tour de contrôle par rapport à un cerveau classique où il y a des aiguilleurs du ciel. Et donc, en fait, les informations qu'on doit recevoir, qui nous viennent du boulot, de la famille, etc., toutes les infos qui circulent autour de nous, eh bien, comme dans un aéroport, elles vont atterrir, sauf qu'en fait, il n'y a personne dans la tour de contrôle pour expliquer où doivent atterrir les informations. Donc, elles arrivent, mais elles n'arrivent pas toujours au bon endroit. Et c'est la même chose qu'avec des avions. En fait, ils atterrissent. Et puis, une fois que les informations sont arrivées sur la piste d'atterrissage, déjà, régulièrement, elles ne sont pas sur la bonne piste. Et puis, en plus, elles ne vont pas se ranger dans le bon hangar. Et c'est la même chose pour le décollage, c'est-à-dire que quand un avion doit décoller de manière normal, eh bien, il demande à la tour de contrôle à quel moment il peut décoller et sur quelle piste. Un TDAH, il n'y a personne à la tour de contrôle, donc les avions vont décoller n'importe comment et à n'importe quel moment, sans avoir eu de feu vert de la part de la tour de contrôle, puisqu'il n'y a personne dedans. Et donc ça, c'est globalement l'interprétation et la métaphore d'un TDAH, d'un cerveau TDAH. Alors c'est un problème qui survient en fait au niveau de ce qu'on appelle l'amygdale. C'est pas les amygdales dans la gorge, mais c'est l'amygdale dans le cerveau. C'est une petite partie du cerveau qui est très étudiée pour le moment, parce que on se rend compte qu'elle joue énormément de tours à pas mal de neuroatypismes, et notamment celui du TDAH. Alors, il faut savoir que, bien sûr, il y a le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et donc là-dedans, on a déjà deux symptômes, c'est-à-dire la distraction et puis le fait de parler très vite comme moi, de faire plein de gestes, etc., ou pas, puisqu'il y a non-hyperactivité. Mais autour de ça, périclite toute une série de facteurs de comorbidité, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé avec le Covid, et qui sont les angoisses, parce que justement, on sait qu'on parle trop vite et on sait qu'on stocke pas bien les infos, donc forcément, on est un petit peu plus anxieux par rapport à ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu faire, qui sont aussi forcément le manque de sociabilité parfois, parce que on se rend compte que quand on dit des choses parfois trop franches, sans filtre, ça peut poser des problèmes, qui sont le manque de sommeil, puisque forcément on a tendance à beaucoup ruminer et avoir beaucoup de choses qui passent dans la tête. Donc toute une panoplie de symptômes qui sont parfois liés à d'autres pathologies, et donc c'est pour ça que c'est toujours difficile d'établir un diagnostic précis. Mais toute cette série de symptômes va venir accompagner ce TDAH, qui est en fait un mot pas très bien utilisé, puisque on a tout autre chose qui vont péricliter autour, quoi.
Oui, bien sûr. Pour revenir à votre enfance, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez identifié chez vous rapidement?
Alors non, pas du tout, puisque moi quand j'étais gamin, c'était il y a 30 ans, 35 ans, on n'en parlait pas du tout. De temps en temps, il y avait le terme hyperkinétique qui était utilisé, mais c'était vraiment pas du tout très régulier comme constat. Et du coup, non, vraiment pas. Et mes parents non plus n'étaient pas spécialement alertés par ça. On parlait plutôt d'un enfant un peu mal éduqué, dans la lune, qui était un peu impertinent et insolent. Et donc il n'y a jamais vraiment eu d'accompagnement scolaire ni de pistes qui ont été mises en place par toutes les cellules de psycho-médico-social autour de l'école. Et donc, c'est resté un grand flou et un grand vide pendant de nombreuses années.
Et vous vous sentiez différent quand vous étiez plus jeune ?
Oui, il y avait clairement une notion de marginalité. Alors, toute proportion gardée avec, évidemment, la marginalité et les extrêmes dont on peut régulièrement parler actuellement dans les médias. Mais en tout cas, quelque chose qui fonctionnait pas comme les autres. Le fait d'être beaucoup plus anxieux que mes potes sur plein de points de vue, le fait de voir souvent le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, le fait d'être toujours un peu distrait en classe, mais en même temps, quand je rentrais à la maison, j'avais retenu tout ce qu'on m'avait dit. Donc, il y avait vraiment des éléments un peu différents de ceux de mes potes, et du coup qui me mettait un petit peu la puce à l'oreille.
Et nous, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est le rapport de l'école avec ces enfants qui ont cette forme d'atypisme. Comment est-ce que vous avez vécu votre scolarité ?
Alors, la scolarité entre 6 et 12 ans, j'ai pas d'énormes souvenirs vraiment très précis de ce qui s'est passé et de la manière dont j'en ai souffert ou pas. En attendant, je sais que très régulièrement, j'étais invité à aller faire un petit tour dehors pour prendre l'air et pour pouvoir un peu dégourdir les jambes, ce qui n'était pas vraiment très fréquent à l'époque. Je veux dire, maintenant, on commence de plus en plus à mettre ça en place, à motiver les enfants à aller faire des activités à l'extérieur avant même de rentrer en classe. Ici, en l'occurrence, c'était pas le cas, et donc c'était plutôt vécu comme une punition plutôt que comme un signe intelligent et intelligible de la part des professeurs. Mais donc il y avait en tout cas cette notion de vouloir bouger, il y avait cette notion d'être très anxieux, de devoir rentrer dans la cour de l'école et de savoir que pendant 8 heures j'étais assis sur une chaise d'école, en sachant que par exemple ici, et c'est pas du tout contre vous, mais que d'avoir un moment où je dois m'asseoir pendant 35 minutes et de parler de moi, c'est quelque chose de très très compliqué, de rester en place, de devoir me concentrer sur certaines choses. Donc il faut imaginer sur 8 heures de temps, quand on est un peu plus vulnérable en tant qu'enfant, c'est vachement plus complexe. Donc il y avait en tout cas cette notion de pas être vraiment à ma place, quoi. Ça, c'est sûr que je la ressens encore maintenant quand je repense à la scolarité. Mais il y avait aussi du côté positif des profs, dont ma prof de première primaire, ici en Belgique c'est la première primaire quand on a 6 ans, qui m'a bien drivé, qui a très vite cerné le personnage et qui a très vite compris qu'il y avait des choses à mettre en place pour pouvoir me canaliser. Mais il n'y avait pas d'impact, en tout cas jusqu'à 12 ans, il n'y a jamais eu vraiment d'impact sur les résultats scolaires. Parce que là, il y avait, comme je vous dis, j'avais quand même l'impression de bien assimiler la matière sans être vraiment attentif. C'est un peu la qualité qu'un TDAH a, c'est que c'est faire pas mal de trucs en même temps. Ça se complique un peu quand on arrive dans le système du collège, parce qu'à ce moment-là, il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte, qui sont la puberté, l'adolescence, les premiers amours, et là, il y a trop de choses qui se passent, et donc les filtres commencent à devenir un petit peu plus compliqués à fonctionner.
Oui. Et donc, à partir de 12 ans, comment ça s'est déroulé?
Alors là, c'est l'adolescence, c'est la période conflictuelle qui se met en place. Mon professeur de dernier cycle de primaire avait expliqué à mes parents que c'était très bien et que tant mieux si je parvenais à restituer mes leçons sans devoir les refaire à la maison. C'était une qualité, mais que ça n'allait plus durer très longtemps. Et donc, effectivement, il avait vu juste, puisque au fur et à mesure du temps qui passe, ça devient plus complexe au niveau du collège, au niveau des leçons. Et puis, il y a plein d'autres stimuli qui entrent en ligne de compte. Je les évoquais, hein, les amours, les cigarettes, les petits, les moments un peu d'adolescent, de pétage de plomb. Et donc, il n'y a plus vraiment moyen, en fait, de trouver un équilibre et d'être attentif uniquement à deux ou trois choses. Donc, ça a été beaucoup plus complexe. Il y a eu des vraies tensions aussi avec mes parents parce que je me sentais incompris. Je me sentais pas impoli avec les profs ni mal éduqué, mais je comprenais pas pourquoi ils nous imposaient certaines choses. J'avais toujours besoin de donner mon avis, de dire ce que je pensais. Alors qu'un élève normal, entre guillemets, avait ce filtre qui disait il y a un respect du professeur, il y a un respect de l'autorité, et il n'est pas question de commencer à interagir avec le prof et à commencer à rouspéter ou à aller à l'encontre de ce qui est demandé, quoi. Donc, ça a été un clash constant pendant une grosse dizaine d'années, quand même.
Et pour vos études supérieures, vous avez continué à avancer sans avoir de diagnostic?
Oui, alors j'ai continué sans avoir de diagnostic parce qu'en fait, au fur et à mesure de mon cycle de collège, je me suis créé des petits mécanismes petit à petit pour pouvoir contrer un peu tous ces problèmes de neuroatypisme. J'ai trouvé des chemins alternatifs en fait qui m'ont vraiment permis de garder la tête hors de l'eau et d'être en mode survie, quoi. Je pense que ce terme-là est quand même assez évocateur de ce qui s'est passé. Et du coup, mes chemins alternatifs, c'était la tchatche, c'était le fait de prendre des responsabilités extrascolaires, le fait de fédérer pour pouvoir me créer une petite équipe qui me permettait sur qui je pouvais compter quand il fallait, quoi. Et donc, quand je suis arrivé dans mes études supérieures, ça a continué à être un peu la galère à chercher ma place. J'ai fait d'abord un an d'infirmier, puis j'ai étudié la kiné, et puis finalement j'ai trouvé ma voie en étudiant le journalisme, mais j'avais déjà 23 ans et donc une pression immense et intense de la part de la famille, mais de la société de manière générale aussi, puisqu'a priori à 23 ans on est déjà censé avoir son premier salaire et sa première bagnole. Moi j'étais encore en galère à faire des petits jobs d'étudiant, mais voilà, j'ai mis plus de temps à trouver ma voie. Je suis content de l'avoir trouvée parce qu'il y a plein de gens qui ne la trouvent pas, et donc j'ai déjà énormément de chance de l'avoir trouvée et énormément de chance d'être tombé sur un corps professoral qui a été très attentif à ma manière de fonctionner et qui a réussi à trouver dans mon système de gestion de mes émotions et de mon intelligence cérébrale et émotive de capitaliser dessus, quoi. Et en fait, ils ont vraiment réussi à m'ouvrir des portes que je pensais jamais pouvoir ouvrir. Parce qu'ils ont décelé chez moi des choses qui étaient atypiques, mais qui étaient intéressantes, je pense, pour eux.
Ouais, c'est génial. Donc, à quel moment est-ce que vous avez mis un mot sur cet atypisme ?
Pendant mon cursus universitaire de journalisme, je côtoyais une famille où il y avait un petit garçon qui me ressemblait quand même fort, quoi. Et donc, je m'intéressais un peu forcément à lui, et on m'expliquait qu'il était hyperkinétique et qu'il prenait des médicaments et qu'il avait beaucoup de problèmes pour se concentrer à l'école. Bon, lui, il était une expression de symptômes nettement plus extrême que moi, parce que moi, j'avais tendance à beaucoup introvertir. Ici, en l'occurrence, dans sa famille, on lui laissait vraiment la possibilité de pouvoir évacuer systématiquement toutes ses angoisses, toutes ses émotions, toutes ses frustrations, tous ses changements aussi d'état d'humeur. Et donc, je me suis dit, ça, c'est quand même vraiment étonnant parce que je me retrouve dans beaucoup d'éléments chez lui. Et donc là, j'ai commencé à faire un peu des recherches. Moi, je faisais des études paramédicales juste avant de commencer le journalisme. Donc, j'avais déjà un peu compris le système de fonctionnement du cerveau. Et donc, Internet n'existait pas encore vraiment, mais j'allais un peu me plonger dans les livres de mon père qui était kiné. J'ai un peu regardé plein de trucs. Et puis après 2-3 ans, je me suis rendu compte que c'était quand même fort similaire à ce qu'avait ce garçon. Et donc là, c'est un peu ce qui m'a commencé à me mettre la puce à l'oreille, mais tout en me disant que ça me posait pas trop de problème puisque je réussissais plutôt pas mal à l'UNIF. Donc j'ai pas spécialement essayé d'aller chercher plus loin, mais c'est au moment où j'ai commencé à bosser, quelques années après avoir commencé à faire de la télé à la RTB, j'ai un petit garçon de nouveau qui sa maman m'a contacté pour me demander s'il pouvait venir visiter les studios parce que son école lui avait refusé la visite de la télévision belge. Donc la RTBF, c'est l'équivalent de France Télévisions et de Radio France. Et donc en gros, moi j'ai un peu court-circuité cette histoire de l'école et j'ai proposé à la maman et à son enfant de venir directement dans notre studio. Et donc il est arrivé et là il s'est avéré qu'effectivement c'était aussi un petit sosie à moi. Et donc à ce moment-là, je me suis vraiment dit là j'ai un rôle à jouer. On peut plus arriver dans des situations où des enfants sont interdits d'école, enfin de visite de trucs par le directeur, ça c'est pas possible. Donc moi j'ai vraiment, il faut savoir que un des symptômes aussi des, enfin c'est pas vraiment un symptôme, mais un trait de caractère des TDAH c'est souvent l'empathie et l'hypersensibilité. Et donc là je me suis vraiment mon cœur de TDAH s'est brisé en deux. Et donc j'ai décidé à ce moment-là, j'ai pris mon téléphone en rentrant de mon enregistrement et j'ai téléphoné, j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé l'association belge de TDAH, j'ai appelé. Et j'ai dit voilà, moi je veux apporter ma pierre à l'édifice. Je suis animateur télé, donc j'ai une petite notoriété ici. Je pense que ça pourrait faire avancer les choses. Et la personne qui m'a reçu au téléphone me connaissait de par mon métier, et donc m'a dit ah ben j'attendais votre coup de fil avec tellement d'impatience. Et donc elle avait bien cerné le personnage, et voilà, on s'est mis ensemble. Et donc à ce moment-là est venue évidemment la nécessité d'un diagnostic. Pour pouvoir être en fait entre guillemets crédible et légitime dans mon rôle de parrain, d'ambassadeur de l'association. Et si mon diagnostic avait été différent de celui que j'avais envisagé depuis des années, je ne me serais pas lancé dans cette aventure-là, mais peut-être dans c'est une sûr. Autre, parce que oui, je trouve que c'est important vraiment d'être dans la bonne trajectoire par rapport à ça.
Et
effectivement, j'ai suivi, j'ai vraiment été diagnostiqué sur un travail de moyen terme avec mes parents, avec un psychiatre, et puis effectivement le diagnostic est tombé de manière assez intense d'ailleurs en termes de gradation, même si ça n'existe pas vraiment. Et alors à ce moment-là est entré vraiment en ligne de compte tout le sens qu'il y avait d'être ambassadeur de cette association.
Oui. Oh, super. Et on se rend compte en fait que le TDAH n'est pas si connu que ça. En tout cas, on en entend un petit peu plus parler ces derniers temps, mais c'est vrai que ça reste assez peu connu même au niveau scolaire. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi ?
Mais je trouve, en fait, rien que le nom TDAH est très barbare.
Ouais.
Et donc, non, mais c'est vrai. Hein, je veux dire, même les gens qui s'y connaissent, une fois sur deux, ils se trompent. Tout trouble dysfonctionnel, trouble déficitaire. Enfin, déficitaire, c'est un mot qu'on n'utilise jamais. Le trouble de l'attention, c'est vrai, mais c'est... Ce n'est tellement pas que ça. Hyperactivité, c'est souvent une connotation négative. Donc, on n'est pas du tout dans un terme, je dirais, au niveau marketing, qui est qui est quelque chose de vendeur. Après, je ne demande pas du tout à ce que ça devienne ça, mais j'explique juste que c'est déjà compliqué d'entrer dans une conversation quand on a ce mot-là qui nous pend au nez. Donc, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a un double problème paradoxal, c'est qu'il y a du surdiagnostic et du sous-diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professeurs et de personnel dans le milieu éducatif qui ont tendance à très vite répertorier les enfants. Lui c'est dyspraxique, lui
oui,
il est
oui.
dyslexique, lui il est TDAH.
HPI,
ils vont chez les parents, ils disent ouais voilà c'est ça, HPI. Ils vont chez les parents, ils disent bon faites-le courir 2 heures dans votre jardin parce que quand il arrive à l'école il sait pas tenir en place.
Oui.
Donc ça c'est une première chose, c'est le surdiagnostic qui en fait joue de très vilains tours au TDAH en lui-même, parce que du coup la prise en charge n'est pas la bonne, et surtout il y a beaucoup de biais par rapport à ce qu'on peut mettre en place. Et puis il y a le sous-diagnostic, puisque effectivement il n'y a pas assez de personnes capables de pouvoir faire un diagnostic complet, efficace et surtout quasi certain, même si on sait que la médecine reste incertaine sur plein de trucs. Mais du coup c'est deux éléments qui se confrontent et qui font que ce TDAH reste quelque chose de compliqué. On n'est pas dans une notion quantitative, quoi. On ne sait pas aller faire un test et dire bah, toi t'as un TDAH de 82 sur 100.
Ouais.
Donc c'est pour ça je crois aussi que c'est complexe.
Ouais. Non, c'est certain. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux parents ou même aux enseignants qui accompagnent des enfants TDAH?
Ça, c'est un des objectifs que j'avais formulé quand j'ai écrit mon livre. C'est vraiment de pouvoir donner toute une série de clés, d'outils, que ce soit pour les enfants, enfin les parents qui ont des enfants TDAH. Mais il faut savoir aussi qu'en Belgique, une notion qui est assez interpellante, c'est que Il y a énormément de parents qui découvrent leur TDAH en allant faire diagnostiquer leur fils ou leur fille. Parce que tout d'un coup, il y a le franc tombe et font « Mais oui, en fait, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. » Et il y a quelque chose... Bon, avec ma mère, ça s'est un peu passé comme ça aussi, quand elle a appris mon diagnostic, etc. Donc ça, c'est une première chose, c'est vraiment de dire « Attention, parce qu'il n'y a pas que des enfants, il y a des parents aussi. » Donc maintenant, pour répondre à votre question, il y a plein d'outils qui existent parce que ce sont vraiment des... L'accompagnement, il se fait un peu de manière individuelle et au cas par cas. Et donc, il y a des outils qui existent pour pouvoir donner des pistes en fonction des difficultés qui sont rencontrées, quoi. Donc, c'est ça qui est vraiment très chouette. Maintenant, de manière générale, stimuler la créativité, le renforcement positif, le fait de demander des moments de concentration. Mon épouse passe sa vie à me dire « Arrête-toi deux secondes, regarde-moi dans les yeux, écoute l'information que je vais te diffuser maintenant et retiens-la. » Donc, au lieu de dire « Ma mère vient manger ce soir », elle me dit « T'as deux secondes, regarde-moi, retiens ce que je vais te dire, ma maman vient manger ce soir. » Et donc, en fait, ce sont des choses qui vraiment permettent de capter l'attention et qui me permettent, moi, d'oublier moins de choses. Même si, une fois sur deux, j'ai quand même zappé le truc, ça me permet quand même de pouvoir être un petit peu plus attentif et en tout cas de me rappeler qu'il y a eu un moment où on m'a demandé d'être attentif et du coup, de pouvoir dire « Tiens, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a quelque chose qu'on m'a... » Donc voilà, ce sont des choses qui sont facilement... qu'on peut facilement mettre en place et qui peuvent être assez utiles, notamment pour les parents et pour le personnel éducatif, pour les enfants. Mais sinon, il y a des milliards d'outils qui existent. J'en partage quelques-uns dans mon livre, mais il y en a plein aussi que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Hein.
Oui. J'aimais aussi beaucoup l'attention particulière que vous portez dans votre livre sur l'alimentation et le sport. Peut-être que vous pourriez nous en parler un peu de ça.
Alors, moi, je me rends compte que... Bah forcément, maintenant, j'ai 41 ans, donc petit à petit, je commence à mieux me connaître, à mieux connaître mon corps, à mieux connaître mes réactions aussi. Je me rends compte qu'effectivement, en fonction de ce que j'ai mangé dans les jours qui précèdent, je vais avoir une productivité qui va être différente, que ce soit en termes professionnels ou en termes privés aussi. Je me rends compte que je vais peut-être avoir des moments d'énervement beaucoup plus rapides et des moments d'inattention beaucoup plus fréquents si j'ai bouffé de la merde pendant les jours qui précèdent. Par contre, quand je suis dans une phase un peu plus nutritionnellement saine et quand je fais un peu plus gaffe, je me rends compte que je suis déjà vachement plus attentif au boulot, que je suis plus dans un travail efficace et facile à faire. Donc ça, c'est une première chose dont je m'en suis rendu compte. J'ai un petit peu adapté aussi mon alimentation. Mais il faut savoir que les personnes TDAH, un des nouveaux symptômes, voilà, j'en révèle plus au fur et à mesure de la conversation, c'est aussi l'addiction. Hein. Ce sont des personnes qui sont très addictives et qui ont besoin d'avoir en fait des petites routines et des coutumes, donc l'alcool, la cigarette... le pétard, et le sucre. Le sucre, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très, très addictif et qui, dans les cerveaux de TDAH, sont très importants parce qu'en fait, quand on mange du sucre, on libère des neurotransmetteurs et des hormones de récompense. Et nous, la récompense, c'est quelque chose qui est très important. Il y a l'adrénaline qui entre aussi en ligne de compte à ce moment-là. Et donc, pour les TDAH, c'est vraiment, comme l'amygdale ne fonctionne pas très bien, elle gère justement tout ce flux d'hormones et de neurotransmetteurs. Et du coup, quand nous, on nous stimule en récompense, on est content, quoi. C'est pour ça que le renforcement positif est important aussi. Donc, il faut faire gaffe à tout ça. Et c'est vrai que j'ai donné dans le livre la parole à une nutritionniste, une diététicienne, qui va un peu remettre l'église au milieu du village, qui va un peu réexpliquer de base la pyramide alimentaire classique, ce que les enfants ont besoin. Et puis après, de dire comment est-ce qu'on adapte et comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions pour que les enfants TDAH puissent manger de manière plus efficace et surtout que ce soit plus cool à la maison. Et ça, de toute façon, ça se rapporte pour tous les enfants. Je veux dire, le succès, c'est une saloperie et il faut vraiment essayer de l'éviter un maximum, même si c'est entré dans nos mœurs depuis des années maintenant et qu'on est complètement addict à ça. Il faut vraiment essayer de repasser un peu par la case fruits et légumes de manière un peu plus générale pendant les collations. J'ai l'impression qu'il y a un vrai travail qui se fait au niveau des écoles, donc ça, c'est bien. Et alors, dans un deuxième temps, vous me parliez de sport et pour le moment, je suis très fier parce que ça fait 15 minutes que je retiens vos questions.
Ouais.
Et c'est très rare parce que d'habitude, je divague rapidement. Mais le sport, c'est quelque chose qui est très important pour moi puisque moi, j'essaie d'en pratiquer 10 heures par jour. Par semaine. Et moi, j'y trouve énormément de choses positives dans le sens où beaucoup de gens me disent, oui, mais comment, par exemple, tu arrives à jouer au tennis alors que tu as des problèmes d'attention et de concentration? Alors, c'est une réalité, mais il faut savoir que dans le TDAH, une nouvelle donne qui existe, c'est l'hyperfocalisation. Et donc, quand on fait une tâche qu'on apprécie particulièrement, qui en plus vous apporte de l'adrénaline, on en revient avec ses neurotransmetteurs, et qui en plus va vous permettre de vous mettre un peu en danger dans la compétition, ben là, vous apportez à un TDAH tout ce qu'il a envie d'avoir. C'est l'incertitude sur le moment, c'est ne penser à rien d'autre puisqu'on est dans le mouvement, c'est être focus sur une seule chose et un seul objectif. Et donc, ça, pour ça, le sport m'apporte vraiment beaucoup de bénéfices. À côté de ça, le fait de me dépenser, puisque moi j'ai l'hyperactivité dans mon combo TDAH, ça me permet de pouvoir détendre mes muscles par après, ça me permet de pouvoir être beaucoup plus concentré et d'apprécier beaucoup plus aussi, de recevoir plus facilement les informations, parce que j'ai fait un travail respiratoire pendant le sport, parce que mon cœur a pompé, parce que forcément quand on fait du sport on se sent mieux, et donc on est beaucoup plus à même de pouvoir percevoir, recevoir des infos et être un peu plus relax quand on a des choses à dire, quoi.
Ouais, c'est super intéressant. Et qu'est-ce que vous pensez de la médication autour du TDAH ?
Alors moi, j'ai toujours décidé de pas me prononcer à ce propos parce que c'est de nouveau une approche très individuelle et une approche qui dépend aussi beaucoup du médecin et de la personne qui va prendre en charge le patient. Et comme j'ai zéro formation médicale, moi, je ne me prononce pas du tout là-dessus. Ce que je dis, c'est que moi, j'en ai jamais pris. Mais je ne dis pas que j'en ai jamais pris parce que je voulais pas en prendre. J'en ai jamais pris parce que pour le moment, je n'ai pas eu le besoin. Mais je n'exclus pas le fait qu'un jour, ça puisse arriver, quoi. Mais pour le moment, j'ai réussi à trouver tellement de chemins alternatifs qui sont efficaces, même si c'est parfois compliqué. Comme je l'expliquais, le challenge, j'en aime bien ça. Donc, de temps en temps, quand je me retrouve dans des situations un peu compliquées, je préfère me dire tu vas y arriver tout seul que de frapper à la porte d'un médecin pour demander un médicament. Mais c'est peut-être une question de tempérament aussi.
Oui, c'est certain. Non, mais vous avez raison de porter le message ainsi. Et j'avais une autre question, c'est par rapport à votre parentalité, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je le sais. Et je suppose que c'est quand même une difficulté supplémentaire, même si c'est certainement également beaucoup de bonheur. Comment est-ce que vous gérez votre parentalité avec ce TDAH ?
En fait, ce TDAH, il me sert beaucoup dans ma parentalité parce que, comme j'ai vraiment appris à bien me connaître, je sais que je dois être très vigilant sur certaines choses de concentration et d'attention. Et ici, on parle pas d'un objet ou d'un truc sur lequel une note de service que je dois faire pour le boulot et que si j'oublie de la faire, y a pas mort d'homme. Là, c'est un enfant. Et donc, je suis obligé, vraiment, mon cerveau travaille sur plein de trucs pour que je puisse être attentif non-stop, pour que je puisse être toujours dans l'écoute de mon enfant, que je ne fasse pas mille choses en même temps pendant qu'il est en train de me parler ou pendant qu'il est en train de me raconter la journée qu'il a eue à l'école. Et donc, c'est un peu comparable au sport où je suis un peu dans un challenge comme ça, où mon cerveau n'a pas d'autre choix que d'être hyper focalisé sur la parentalité et sur l'accompagnement de mon enfant. Et donc, c'est assez efficace parce que c'est une bonne petite gymnastique, en fait, pour me permettre d'être concentré, vu que là, il y a vraiment un instinct de survie, quoi, en fait, qui entre en ligne de compte. Donc, c'est plutôt chouette. Et puis, en plus, il y a un côté très créatif sur le TDAH, puisqu'il y a plein d'idées qui circulent. Alors, elles sont très rarement bonnes, mais en tout cas, il y en a plein. Et donc, ça permet de passer du coq à l'âne, dès que je vois qu'il est un peu en train de commencer à être une période, c'est un peu plus compliqué en fin de journée, etc. Hop, je lui propose un autre petit truc. Et donc, il y a une vraie diversité de choses à faire, de messages à passer. Et donc, c'est assez efficace. Et ça me permet d'être, de pouvoir gérer cette parentalité de manière assez efficace. Et puis surtout aussi, en fait, c'est vraiment la parentalité qui m'aide à gérer mon TDAH parce que il y a une routine qui doit se créer aussi avec les enfants, la mise au lit, toutes les petites choses qui se font avant. Le réveil le matin, il y a tout un rituel aussi. L'école, c'est toujours à la même heure, ça termine toujours à la même heure. Et donc, moi, ça me permet vraiment de structurer mes journées, ce que je faisais pas du tout avant parce que j'avais aucune contrainte, entre guillemets, structurelle privée. Et donc c'est vraiment, ce sont deux choses qui vont bien ensemble, je trouve. Mais parce que j'en ai qu'un, le deuxième arrive, je vais peut-être faire un peu moins le malin à ce moment-là.
C'est clair. Ouais. Et je vous laisse bientôt tranquille, mais j'aimerais qu'on parle. J'aimerais qu'on parle aussi d'un point de vue professionnel, parce que je sais que ça inquiète beaucoup de parents qui ont des enfants qui ont le TDAH, de comment on gère sa vie professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler ouvertement à ses collègues? Comment est-ce que vous le gérez ce point-là pour votre vie pro?
Moi, je l'ai fait tout de suite et c'est un peu le message que je fais passer dans mon livre régulièrement aussi, c'est assumons-nous, quoi. Ça sert à rien de commencer à se dire je vais essayer de planquer le truc, je vais essayer d'être super concentré et tout. En fait, ça ne va faire que biaiser les relations qu'on a avec les autres personnes et notre productivité au travail parce que moi, je sais à quel moment je suis productif. Je sais que en une heure, je vais pouvoir être super productif, peut-être plus que 4 heures pour quelqu'un d'autre. Et donc, je préfère expliquer comment je fonctionne. Et il y a des personnes avec qui ça fonctionne, avec qui ça va matcher, et des personnes avec qui ça va pas matcher. Et donc, moi, j'ai la chance d'être dans un secteur où il y a plein de projets différents et où si ça matche pas pour un, bah, je peux vite aller dire bonjour à un autre. Donc, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Et du coup, j'en viens à un autre conseil qui, je crois, est indispensable. C'est le réseau, quoi. Le fait qu'on soit très créatif, le fait qu'on n'ait pas trop peur de parler, qu'on n'ait pas trop peur d'expliquer tout ce qu'on pense, mais ça nous permet de créer des réseaux avec la possibilité de pouvoir bifurquer de temps en temps vers la gauche, vers la droite, puisque nous sommes des éternels insatisfaits et qu'on a toujours besoin d'avoir des nouveaux challenges. Bah, ça permet d'aller tirer des cordes et d'aller rencontrer des personnes qu'on avait déjà croisées au préalable, et donc toujours vraiment être hyper open à tout ce qui, toutes les personnes qui existent autour de nous et qui pourraient un jour ou l'autre être des chouettes collègues et des chouettes personnes avec qui travailler. Donc, je pense que le fait d'en parler va permettre justement de casser une chape de plomb qui pourrait exister, une chape de béton qui pourrait exister, et du coup de créer une relation avec d'autres personnes qui pourraient être bénéfiques pour plus tard. Donc, le dialogue, l'ouverture vers les autres, ça, ce sont deux choses qui me semblent être importantes. Et puis, ben, forcément. J'en parlais avec ma vie de papa, mais la structure d'une journée, avant même de commencer le boulot, c'est de se dire, OK, comment est-ce que, maintenant que je suis diplômé, maintenant que j'ai envie de commencer des études, comment est-ce que je vais pouvoir trouver des solutions pour pouvoir y arriver, quoi? Donc, quelles sont les choses que je mets en place? Ça passe par un agenda, ça passe par des contraintes horaires obligatoires qui me permettent de pouvoir mieux organiser ma journée et de pouvoir être productif à certains moments plutôt que de traîner une journée de 8 heures où ça va pas aller. Donc c'est vraiment des blocs, quoi. Moi, c'est vraiment, je fonctionne par blocs. Quand j'étudiais aussi, c'était, je me mettais un bloc d'1h30 où je carburais et puis le reste de la journée, tant pis si je faisais rien, c'est pas grave. Mais voilà, il faut essayer de bien se mettre des objectifs. Même s'ils sont, ils sont petits, ça permet d'être assez efficace aussi.
Ouais, et d'accepter qu'on ne s'organise pas comme les autres.
Oui, oui, exactement. Et du coup, essayer de trouver les gens qui acceptent qu'on ne s'organise pas comme les autres aussi. Ça, c'est parfois un peu plus difficile, mais je le disais aussi dans le livre, j'expliquais à l'école, j'avais un radar, en fait. J'arrivais à sentir les personnes avec qui je savais qu'il allait avoir une compréhension de la manière dont je fonctionnais. Et donc, je pense que ça, c'est un avantage qu'on a aussi en tant que TDAH, c'est de pouvoir être très... intuitif et de pouvoir sentir les choses et les personnes.
Et ça vient aussi de votre empathie très développée.
Bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça joue aussi.
Super. Bon, on arrive déjà à la fin de cette conversation, mais je vais vous poser une toute dernière question. Est-ce que vous auriez des derniers conseils à donner aux parents qui nous écoutent et qui ont des enfants qui ont le TDAH? Est-ce que vous auriez des derniers conseils à leur partager? Bon, déjà... on en a dit beaucoup et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours très bienveillant. Il y a beaucoup d'espoir et voilà, je pense que vous allez complètement dans le bon sens pour libérer la parole sur ce sujet-là. Mais je ne sais pas si vous aviez autre chose à partager pour les parents qui nous écoutent.
En fait, je crois que ce qui est vraiment important, et moi, je m'en suis rendu compte aussi en devenant papa, ce que je faisais pas du tout avec mes neveux et nièces, ni avec les enfants que je côtoyais de manière générale, c'est que j'écoutais pas du tout assez mes enfants. Et là, mon fils, moi, il a 3 ans, mais ce matin, par exemple, il m'a raconté des histoires, mais vraiment, c'est trop chouette. Il m'a expliqué qu'il faisait du théâtre à l'école, qu'il y avait des marionnettes. Alors, il m'a raconté l'histoire du petit pousset. Il m'a expliqué que le loup se déguisait. Le petit chaperon rouge, pardon. Il m'a expliqué que le loup se déguisait, mais que c'était pour du faux, qu'il fallait pas s'inquiéter. Et en fait, je me dis, peut-être que c'est un truc qu'on, nous, on n'a pas eu assez, notre génération, années 80, années 90, bah, les enfants, voilà, c'est des enfants, ils ont rien à raconter, ils ont rien à dire, ils nous suivent, on leur dit, on va à gauche, on va à droite, on va à droite. Alors, je dis pas non plus qu'il faut faire les 47 volontés des enfants, c'est pas ça que j'explique. Ce que je dis juste, c'est que parfois, ils ont tellement de choses à nous expliquer et à nous raconter que dans ce qu'ils vont nous raconter, mais aussi dans la manière dont ils vont le faire, on va pouvoir se rendre compte de la manière dont ils appréhendent le monde. Et en comprenant ça, on va peut-être pouvoir leur expliquer les choses et surtout les accompagner plus facilement parce qu'on a compris la manière dont eux percevaient les choses, quoi. Et donc, moi, c'est vraiment un truc dont je me suis rendu compte depuis 3 ans maintenant, c'est que je parviens à être beaucoup plus audible parce que j'ai écouté mon fils, et donc je parviens à être beaucoup plus efficace aussi dans la manière de communiquer avec lui. Ça, c'est une chose. Comme autre conseil, je dirais que pour moi, le renforcement positif, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et je sais à quel point ça peut paraître parfois un peu bisounours de dire « Oui, mais tu dois le dire quand il a bien mis la cuillère dans le tiroir, qu'il a bien mis sa chaise en place. » Ce sont des petits gestes qui, pour des enfants, qui pour nous paraissent tellement anecdotiques, mais pour des enfants, c'est un travail incroyable au niveau neurologique de respecter la règle qui a été mise en place, de se dire qu'ils l'ont bien fait, et surtout d'entendre qu'ils l'ont bien fait. Et donc, tout ça va permettre à l'enfant d'être serein, d'être plus relax, et peut-être d'avoir les mêmes effets qu'une séance de sport, et donc de se dire, bah, je suis en confiance, donc je vais pouvoir être plus à même d'assumer mon trouble, et plus à même d'aller plus loin, et plus haut, et plus fort, quoi.
Ouais, et de m'accepter comme je suis.
Exactement. Parce que les autres m'acceptent comme je suis, donc je m'accepte aussi comme je suis. Ouais, tout à fait. Voilà.
Bah, merci mille fois pour votre temps, c'était super, et ouais, bravo pour tout ce que vous faites avec l'association. Je pense qu'aussi c'est essentiel de se rapprocher, de s'informer auprès de ces associations qui font un travail, j'en suis certaine, fabuleux. Donc bravo encore pour tout ce que vous faites et à très bientôt, j'espère.
Ben oui, bientôt, à très bientôt. Et puis voilà, je fais un petit appel à tous les parents s'ils ont envie d'avoir des choses à véhiculer, à communiquer. Il faut vraiment pas hésiter. Il y a plein de groupes de parole qui existent partout. Il y a plein de vidéos qui circulent. Il y a des livres. Donc il faut vraiment pas hésiter à se renseigner, à lire des choses et surtout expliquer que le TDAH, bah, comme on l'a dit dans cette conversation, c'est pas comme un rhume, quoi. Il n'y a pas un début, une fin, et on sait comment le soigner. C'est plein de paramètres qui entrent en ligne de compte. C'est très individuel. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut se dire qu'un jour ou l'autre, on trouvera des solutions de manière individuelle et personnalisée, et de se dire que, bah voilà, tout est possible.
Ouais, c'est sûr. Bah merci mille fois.
Avec plaisir. À très bientôt.
Hein. À bientôt.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.